PMA, don de sperme, congélation d'ovocytes, tous les débats bioéthiques du moment posent aussi la question d'un sujet longtemps resté tabou, l'infertilité.
Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'infertilité est bien une maladie.
Un couple sur 6 ira consulter au moins une fois dans sa vie pour un problème d'infertilité, avoir des difficultés à tomber enceinte. C'est évidemment très angoissant.
Notamment les femmes dont la fertilité baisse très rapidement, malheureusement, avec l'âge, malgré une espérance de vie très importante.
Les messages que nos cellules s'envoient continuellement les unes aux autres sont perturbés par ces substances. Tant que ces troubles n'étaient constatés que chez les animaux, on ne s'est pas trop inquiété. Mais l'homme est un mammifère dont le nombre et la qualité des spermatozoïdes est en chute libre.
Dans quelle autre pièce, avec quels objets du quotidien encore on peut se contaminer comme ça et mettre peut-être en danger sa fertilité.
Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de se retrouver pour un nouvel épisode d'Hyperchondriac, le podcast de Santé Magazine, 100% gratuit, 100% pour vous. Merci de nous soutenir, merci de nous écouter. Ce mois-ci, nous allons parler d'infertilité. Cela ne fait aucun doute, la fertilité baisse. Depuis plusieurs années, des équipes internationales de chercheurs publient des résultats alarmants. De plus en plus de couples peinent à concevoir un enfant. En France, l'infertilité touche près de 3,5 millions de personnes. Un chiffre en augmentation selon les experts et qui suscite l'inquiétude au point que le 16 janvier dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé vouloir engager un plan de lutte contre l'infertilité. Ce plan devrait être discuté cet été. Pourquoi l'infertilité progresse-t-elle? Comment l'expliquer? Y a-t-il vraiment une épidémie silencieuse, comme le suggèrent certains scientifiques? Et d'abord, de quoi parle-t-on exactement? Je suis Aline Perraudin, directrice de la rédaction de Santé Magazine, et pour répondre à toutes ces questions, je reçois le professeur Samir Amama, gynécologue, chef du service de biologie de la reproduction au CHU de Montpellier et président de la Fédération française d'études de la reproduction. Professeur Samir Amama, bonjour. Vous êtes l'auteur du rapport sur les causes de l'infertilité remis au ministère de la Santé en février 2022. Pourquoi ce rapport, il y a maintenant 2 ans ?
La genèse de ces rapports est très simple. Lorsque la loi de bioéthique de 2021 a été promulguée le 2 août, dans son article 4, il stipulait la réalisation du premier plan national fertilité. C'est la raison pour laquelle j'étais sollicité par le gouvernement, justement pour élaborer ce premier plan et voir comment peut-on lutter contre les différentes causes d'infertilité.
Pour commencer, je souhaiterais que vous nous expliquiez ce qu'est exactement l'infertilité. On en parle beaucoup, mais comment la médecine la définit-elle? Quand considérez-vous qu'une femme, qu'un homme est infertile?
La définition médicale, c'est l'incapacité de concevoir sans aide médicale. Autrement dit, pour un couple jeune, quand ils essayent pendant 12 cycles, avec des rapports réguliers, sans moyens contraceptifs, eh bien, s'il n'y a toujours pas de grossesse qui se mettait en place, on considère que ce couple-là est infertile et il va consulter. Donc la notion de temps est extrêmement importante.
L'infertilité est donc définie par l'incapacité à être enceinte naturellement après au moins 1 an de rapports sexuels réguliers non protégés.
En revanche, pour une femme qui a 35 ans, au-delà de 6 cycles, autrement dit au-delà de 6 mois, s'il n'y a pas de BT qui se met en route, on suggère au couple de consulter. Autrement dit, le temps, ce n'est pas un allié pour une femme, mais c'est plutôt un ennemi.
Vous insistez sur la nécessité de consulter, car à la différence de la stérilité, l'infertilité ne condamne pas à ne pas avoir d'enfant. Il est possible de recourir à l'aide médicale à la procréation.
Absolument, parce que si vous voulez, plus la femme avance dans l'âge, plus sa réserve ovarienne diminue. Ce que les Français doivent savoir est que la fertilité chute avec l'âge, premièrement, et que la fertilité est optimale chez une femme à l'âge de 25 ans. Et au-delà, la réserve ovarienne commence à chuter. Mais tout cela est impacté par ce qu'on appelle l'hygiène de vie de la personne. Par exemple, l'obésité, la consommation de l'alcool, le tabac, les substances psychoactives, la drogue, etc. Les sports intensifs, l'exposition à des agricultures intensives et à des toxiques, etc.
Vous pointez l'infertilité des femmes. Le gouvernement aussi. Il a débloqué un fonds de 30 millions d'euros pour travailler sur la santé des femmes et des couples. Pourtant, l'infertilité touche aussi les hommes. Et ça, on l'entend beaucoup moins. Pour les femmes, c'est assez culpabilisant. Lorsqu'un problème d'infertilité se pose dans un couple, les regards se tournent d'abord vers elles.
Quant aux hommes, à force d'associer l'infertilité du couple à la fécondité des femmes, le ciel leur tombe un peu sur la tête quand le médecin leur annonce que leurs spermatozoïdes ne sont pas assez nombreux ou pas assez vigoureux. Ils n'osent pas en parler, le sujet est tabou. Le professeur Georges David, fondateur des banques de sperme et d'ovules, nommait cela le déni du mal.
Absolument, vous avez parfaitement raison. Si vous voulez, culturellement parlant, dans le passé, quand ça ne fonctionnait pas au sein d'un couple, le bétine ne se mettait pas en route, on a systématiquement tendance à penser à la cause féminine. Or, maintenant, toutes les enquêtes épidémiologiques le montrent clairement, il y a un tiers d'infertilité de couple dû à une cause purement et simplement masculine, un tiers de couple dû à une cause purement féminine et un tiers les deux à la fois. Mais quid aussi de 10-15%, ce qu'on appelle infertilité dite inexpliquée. Autrement dit, vous avez exploré l'homme, vous avez exploré la femme, et tous les examens s'avéraient normaux, ce qu'on appelle infertilité dite idiopathique.
Selon vous, l'infertilité est un enjeu de santé publique majeur qui n'a pas été traité comme tel par les pouvoirs publics. Votre rapport pose un constat sévère. Vous écrivez, je cite, « La fréquence de l'infertilité masculine et féminine n'a cessé d'augmenter de façon particulièrement inquiétante, notamment au cours des 20 dernières années. Peut-on parler d'une épidémie d'infertilité ?»
Non. Je pense pas les mots est exagéré, mais on peut parler de l'altération de plus en plus de la santé dite reproductive chez l'homme et chez la femme partout dans le monde et dans les 5 continents.
En avril 2023, un rapport de l'Organisation mondiale de la santé a révélé que l'infertilité concerne environ 17,5% de la population mondiale, soit environ une personne sur 6 dans le monde. Sa prévalence varie peu d'une région à l'autre. Les chiffres sont comparables, que les pays soient revenus élevés, intermédiaires ou faibles. Bref, l'infertilité, ce n'est pas qu'une maladie des pays riches occidentaux.
Actuellement, on a de plus en plus des données qui consistaient à démontrer clairement que le sperme, je prends cet exemple, qualitativement et quantitativement, est altéré partout dans le monde. Autrement dit, si vous prenez le sperme de grand-père, de son fils, de son petit-fils, aujourd'hui, on sait que le petit-fils, il a moins de 56% de quantité de sperme que son grand-père. Autrement dit, le grand-père, il était aux alentours de 100 millions de spermatozoïdes par millilitre, le petit-fils aux alentours de 45.
Au niveau mondial, une étude a calculé que la concentration de spermatozoïdes a chuté de moitié entre les années 73 et 2011. Assurément, le sperme de l'homme décline.
Qui montrait le déclin du spermatozoïde chez l'homme, quantitativement et qualitativement. Donc autrement dit, il y a un effet transgénérationnel. Donc oui, il y a un déclin, parce qu'on a deux facteurs aujourd'hui pour lesquels on a des résultats extrêmement intéressants. Les facteurs environnementaux, je reviendrai là-dessus, et ce qu'on appelle les facteurs épigénétiques et l'interaction entre les deux. Oui, on a un déclin dans la qualité du sperme. Oui, on a une augmentation en termes de cancer des testicules. Oui, on a une augmentation en pourcentage des cryptorchidies, c'est-à-dire les testicules qui ne descendent pas chez les hommes, qu'il va falloir la prendre en charge. Et nos amis pédiatres, aujourd'hui, diagnostiquent de plus en plus rapidement pour bloquer les testicules, ce qu'on appelle les testicules ascenseurs. Bref, oui, on a plusieurs données aujourd'hui selon lesquelles la santé reproductive masculine est altérée partout dans le monde.
Revenons à la France. Un couple sur 4 en âge de procréer est concerné par un problème d'infertilité.
Absolument. Vous pouvez considérer un couple sur 4 quand la femme est âgée de 30 ans, un couple sur 3 quand la femme est âgée de 35 ans et un couple sur 2 quand la femme est âgée de 40 ans. Autrement dit, oui, avec l'aide des experts de l'INED et de l'INSEE, nous avons recensé entre 20 et 45 ans, il y a 3,3 millions de personnes infertiles, hommes, femmes, confondues. Mais autrement dit, cela correspond à 6,6 millions de couples, parce qu'il faudra bien intégrer le ou la partenaire dans cette affaire, de manière directe ou indirecte. Et au-delà de la France, on a recensé plus de 40 millions de personnes infertiles en Europe et pas loin de 300 millions de personnes infertiles dans le monde. Il y a autant de personnes infertiles dans le monde que des personnes diabétiques. Donc autrement dit, si on ne fait rien, ces phénomènes ne cessent de s'amplifier. Oui, il y a une augmentation d'infertilité chez l'homme et chez la femme partout dans le monde, mais peut-être aussi parce qu'on a de plus en plus de moyens qui nous permettent de les mettre en évidence. Vous voyez, parce que je vous rappelle quand même, là, on discute sur un sujet qui touche à l'intime, qui touche à la famille, qui touche à Dieu, qui touche à la société. Donc, c'est pas évident que les gens osent d'en parler. Et c'est un vrai problème aujourd'hui. C'est un problème majeur de santé publique, je crois. Il faut le dire de manière claire. Et deuxièmement, votre santé reproductive, c'est un indicateur de votre santé en général.
Alors, comment expliquer ces problèmes croissants d'infertilité? Quelles en sont les causes?
Pour faire simple, on peut identifier trois sortes de causes. Premièrement, cause sociétale. Deuxièmement, cause environnementale. Et troisièmement, bien évidemment, cause médicale.
Commençons par développer les causes médicales.
Alors, le cause médicale, c'est simple. Je prends deux maladies bien connues chez la femme. L'endométriose, c'est quasiment 15 à 20%, ou les femmes qui ont le syndrome des ovaires polykystiques. Ça représente 15 à 20% de nos patientes qu'on prenne en charge. Mais vous avez aussi les causes parmi les causes médicales chez les femmes, tout ce qu'on appelle le problème relié à l'ovulation. Parfois, il y a des femmes qui désovulent, c'est-à-dire ils ont une ovulation irrégulière. Ou parfois, il y a des femmes qui sont anovulatoires. Autrement dit, ils n'ont pas d'ovulation. Et dernière indication côté féminine, c'est bleuto, par exemple, toutes les pathologies tubaires. D'ailleurs, la fécondation in vitro a existé grâce à l'échec, malheureusement, de ce qu'on appelle la microchirurgie tubaire.
Les pathologies tubaires que vous mentionnez concernent les trompes de Fallope, par lesquelles remontent les spermatozoïdes dont un parviendra jusqu'à l'ovule pour le féconder. Elles empêchent donc la rencontre entre le spermatozoïde de l'homme et l'ovule de la femme. Et concernant l'endométriose, toutes les femmes qui en souffrent ne sont pas pour autant infertiles, n'est-ce pas?
Là, ce qu'on disait, c'est pas parce que vous avez la maladie de l'endométriose que vous êtes systématiquement infertile. Mais on sait qu'il y a 15 à 20% des patientes avec l'endométriose, ils sont infertiles. Est-ce que cette infertilité due à leur maladie? Donc, difficile de répondre. Mais en attendant, oui, on les prend en charge. Ça n'empêche pas qu'il y a des femmes qui ont de l'endométriose et qu'on conçoive naturellement sans aucune aide médicale.
Et chez les hommes, quelles sont les causes de cette baisse de sperme qualitative et quantitative? Vous avez évoqué tout à l'heure le cancer des testicules. Il y a d'autres causes?
Le cancer des testicules, c'en est une. Il y a aussi les voies éjaculateurs par lesquelles les spermes vont passer. Ils peuvent avoir une obstruction. Parfois, il y a du changement des températures scrotales qui peut altérer la qualité de la spermatogenèse. Bref, par exemple, le spermatogénèse doit se dérouler normalement, si tout va bien, à 34 degrés. Or, parfois, comme je vous ai dit tout à l'heure, les testicules ascenseurs qui montent, qui descendent. Parfois, vous avez aussi une altération au niveau de l'axe hypothalamus, hypophyse, testicule.
Ça vient du cerveau?
Bien sûr, parce que si vous voulez, les cerveaux, elle va sécréter des hormones nécessaires pour le bon déroulement de la spermatogénèse.
En octobre 2023, un groupe de 25 scientifiques internationaux regrettait publiquement ce manque de suivi, ou plutôt ce manque d'attention donnée à la santé reproductive masculine.
On dépiste de mieux en mieux, mais malheureusement, aujourd'hui en France, nous avons 1332 urologues spécialistes de l'homme au sens large. Eh bien, il y a à peine une petite vingtaine d'urologues qui s'intéressent à la prise en charge de l'homme infertile. Heureusement, parfois il y a des bonnes nouvelles, c'est une spécialité qui se féminise de plus en plus et que la jeune génération des urologues s'intéresse de plus en plus à l'homme infertile. C'est une singularité française parce que si vous allez en Belgique ou au-delà en Angleterre et aux États-Unis en Australie, dans chaque centre des PMA, vous avez un médecin référent pour la prise en charge de l'homme.
Revenons aux causes et aux causes environnementales de ce problème. De nombreuses études soulignent le lien avec la pollution. Votre rapport désigne clairement le lien avec les perturbateurs endocriniens.
Au fait, dans le rapport, avec le groupe d'experts et d'experts qui m'ont entouré, on a voulu être pratico-pratique, sans être alarmiste, mais tracer ce qui est de factuel. Alors, quand on parle des facteurs environnementaux, au-delà de la qualité de l'air, au-delà de la pollution, au-delà de nanoparticules, il y a cette fichue perturbateur dite endocrinien. Ces perturbateurs, ce sont des substances qui parasitent votre système de régulation hormonale. Elles peuvent être d'origine environnementale comme elles peuvent être d'origine chimique. Dans votre vie quotidienne, vous êtes exposé à une centaine de molécules sans que vous le sachiez.
C'est inquiétant parce qu'il y en a quasiment partout, dans l'eau, dans l'air, dans l'alimentation, dans les produits chimiques, dans les produits d'entretien, de bricolage, de jardinage, dans les pesticides, dans les plastiques, dans les cosmétiques.
Quand vous allez acheter votre parfum, votre pommade, votre rouge à lèvres, votre shampoing, eh bien partout il y a des perturbateurs endocriniens. Autrement dit, ils sont dans l'air, ils sont dans le sol et ils sont dans l'eau. Hier, je vous aurais dit, prenez une pomme, lavez-la et croquez-la. Aujourd'hui, je dis, avant la croquer, il faut l'éplucher. Donc, autrement dit, oui, les perturbateurs endocriniens, aujourd'hui, ils sont à l'origine de l'augmentation de diabète type 2, à l'augmentation de maladies cardiovasculaires, du cancer et l'augmentation de l'infertilité. Mais le drame, aujourd'hui, entre prendre une décision pour retirer ces molécules, eh bien, vous allez avoir l'influence et le lobbying des pétrochimies. Prenez le rouge à lèvres. Une femme va consommer tout au long de sa vie entre 5 à 6 kg. Qu'est-ce qu'il y a dans le rouge à lèvres? Il y a un perturbateur endocrinien qu'on appelle les éthers de glycol. Pourquoi on les met dans le rouge à lèvres? Parce que ça permet d'avoir cette stabilité de matin au soir. Qu'est-ce qui se passe-t-il si on le retire? Eh bien, ça voudrait dire, est-ce que vous, mesdames, vous acceptez d'émettre le rouge à lèvres tous les heures ou tous les deux heures? Donc, parfois, notre propre comportement est responsable de certaines choses. Ça, c'est une. Deux, vous me dites, je vais habiter dans tel endroit. Je vous réponds, regardez si dans un périmètre de 5 à 10 km, s'il n'y a pas d'usine pétrochimie, s'il n'y a pas d'usine cosmétologie, s'il n'y a pas une agriculture intense, s'il n'y a pas une déchetterie, s'il n'y a pas un incinérateur. Vous voyez, autrement dit, vous êtes exposé sans que vous le sachiez.
Certaines périodes de la vie, certains âges, sont-ils plus sensibles aux perturbateurs endocriniens?
La réponse est non. Ils attaquent notre existence dès la conception jusqu'à la mort. Donc autrement dit, il n'y a aucune catégorie d'âge qui est épargnée face à l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Après, ce qui va faire la différence, c'est la durée de l'exposition.
C'est la raison pour laquelle vous souhaitez la création d'un nouveau logo reprotoxique. De quoi s'agit-il? Quelle forme prendra ce logo?
Du genre que vous sachiez à l'instar de Nutri-Score. Le but, c'est de vous informer pour dire voilà ce qu'il y a dedans. Après, libre à vous d'en consommer ou pas. Donc, le drame, mais au-delà de perturbateurs endocriniens, il y a des facteurs toxiques. Par exemple, il y a les métaux lourds. Quand vous fumez, on vous dit le tabac. Parce qu'il y a le cadmium, pour prendre cet exemple. Le plastique, c'est des pétrochimies. La molécule la plus dangereuse, la bisphénol A, vous voyez, le phtalate, etc. Donc, toutes ces substances qu'on rajoute dans l'alimentation transformée, les pesticides, la fongicide, bref, toutes ces molécules auxquelles nous sommes exposés au quotidien, ce qui m'intéresse, c'est de dire informer la population à l'échelle collective et à l'échelle individuelle. Certes, il est difficile d'émettre des causes à effet, mais quand on voit en termes de coût de revient de la prise en charge sanitaire, à l'Europe par exemple, on sait que sa dépense, ça représente plus de 60 milliards d'euros par an.
La prise en charge de l'infertilité?
Non, la prise en charge de perturbateurs endocriniens, qui est la conséquence des maladies générées à l'exposition des perturbateurs endocriniens. D'accord? Donc parfois, il y a certains, ils ont des expressions assez excessive, mais je ne crois pas qu'ils disent qu'il s'agit vraiment d'un scandale sanitaire. Parce que quand on vous dit ils sont dans l'air, ils sont dans le sol, ils sont dans l'eau que vous buvez, eh bien, c'est une réalité. La deuxième chose, c'est ces perturbateurs impactent même l'expression de nos gènes, ce que l'appelle l'épigénétique. Cet défaut d'expression de gènes peut aboutir à des maladies. Donc, c'est ça ce qu'ils font en conséquence les perturbateurs endocriniens. Elles drivent l'expression des gènes à leur cause. Et donc, c'est pour ça, moi, je préfère utiliser les mots « elles parasitent notre système de régulation hormonale » et qu'ils l'orientent vers telle ou telle maladie qui va s'exprimer de plus en plus.
Il est donc clair que les facteurs liés à l'environnement ont un impact important sur la capacité de reproduction. Mais peut-on s'en protéger? Et si oui, comment?
J'ai du mal à croire qu'on puisse vivre sans perturbateurs endocriniens, parce qu'ils sont partout. Pour faire simple, on a recensé plus de 100 ou 150 000 molécules. Mais je pense que nos amis de la pétrochimie doivent s'y mettre à contribution pour épargner la vie humaine. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, cette exposition liée à votre hygiène de vie, le lifestyle, comme on dit, si vous êtes obèse, si vous consommez de l'alcool, si vous fumez, si vous dormez mal, si vous faites des sports intensifs, cet effet cocktail aboutit à l'augmentation des prévalences de l'infertilité, etc., etc. Le sommeil, la qualité de sommeil, si vous me dites, chaque fois que je me réveille, je fais 4 heures, 5 heures, moins de 6 heures de sommeil, et je me sens toujours fatigué. Moi, je dis explorer, parce qu'on sait la qualité de sommeil impacte votre santé reproductive. Après, par exemple, votre index corporel, en fonction de votre poids, de votre taille, oui, elle peut impacter votre santé reproductive. Le tabagisme, même passif, peut impacter votre santé reproductive. On a oublié même le café. Par exemple, je vous dis, il ne faut pas dépasser le 5 cafés par jour. Donc, vous voyez, si vous prenez le café, si vous prenez les cigarettes, si vous prenez l'alcool, si vous prenez l'obésité, si vous prenez le sport intensif, si vous prenez la cuisine type charcuterie et compagnie, bah, c'est vraiment, ça fait un cocktail explosif. Il y a le feu à la maison.
Ce que vous nous dites, en quelque sorte, c'est que nous ne pourrons pas nous soustraire à ces substances dangereuses et que c'est à nous d'adapter nos comportements.
Je pense que vous avez tout dit. Il y a l'effet, comme je dirais, effet cocktail. Mais après, cet effet va s'amplifier ou pas selon notre hygiène de vie. Au fait, j'insiste sur cet aspect-là parce qu'on évoque notre hygiène de vie de manière extrêmement fragmentée. On parle d'obésité, mais on ne s'intéresse pas au reste. On parle de la consommation excessive de tabac, de l'alcool, etc. Non, je pense que c'est un ensemble qui va amplifier cet effet nocif pour votre santé reproductive.
Donc, la responsabilité nous en incombe. Mais changer ses habitudes est très difficile.
C'est vrai, ma propre fille, quand je lui dis, pour les petits-enfants, évite d'utiliser des biberons en plastique, utilise plutôt des biberons en verre, elle me dit, papa, c'est plus facile de dire que de le faire. Donc, il va falloir qu'on considère vraiment toute cette possibilité d'éviter et limiter l'exposition de nos concitoyens à ces types de substances dangereuses.
On a beaucoup entendu parler de l'effet des téléphones portables dans la poche des garçons, responsable d'une élévation de température au niveau des testicules. Cela vous fait-il sourire ou bien les hommes devraient-ils réellement y faire attention?
Non, je pense que c'est évoqué. Il y a des articles scientifiques, mais pas une preuve scientifique de haut niveau.
Il reste les causes sociétales. Votre rapport souligne le recul de l'âge de la maternité et de la paternité.
Alors, je pense, aujourd'hui, où sommes-nous? Si vous regardez le moyen d'âge du premier accouchement, on est dans les grandes villes comme Paris, Marseille ou Lyon à 31 ans et 2 mois. Quand j'ai commencé mon rapport, on n'était pas tout à fait à 31 ans. Il y a 30 ans, l'âge moyen était de 24 ans. Au fait, comme j'ai dit, l'âge pour une femme, ce n'est pas un allié, c'est un ennemi. Donc les Français, oui, doivent savoir que leur fertilité chute avec l'âge. Mais on se trouve face à une situation assez paradoxale. D'un côté, et tant mieux, les femmes font de plus en plus des études et des parcours universitaires assez longs. Le temps que vous finissez vos études, que vous trouvez le job auquel vous aspirez légitimement, que vous trouvez votre prince ou votre princesse, vous avez 30, 32, 33 ans, etc. Donc, la question est-ce que la France aujourd'hui offre la possibilité à une femme, en âge de procréer et au-delà, de combiner entre sa vie professionnelle et sa vie de famille? J'ai tendance à dire ma réponse est non. Donc, le jour où on considère le congé maternité, c'est pas une punition. Les phrases parfois désobligeantes, ah, c'est pas le moment, votre grossesse tombe mal. Oui, si, maintenant tu pars en congé maternité, je vais recruter quelqu'un d'autre à votre place. Bref, on culpabilise en permanence sur cette question-là.
Tous les indicateurs vous donnent raison. Une récente étude de l'ADRES a révélé début mars que l'articulation entre vie familiale et vie professionnelle repose toujours fortement sur les mères qui sacrifient plus que les pères leur vie professionnelle pour s'occuper de leurs enfants.
Je pense qu'il n'y a pas que le recul d'âge pour faire le premier bébé. Il y a aussi cette ignorance quant à votre fertilité chute avec l'âge. Il y a une ignorance quant à votre fertilité est optimale à l'âge de 25 ans. Et puis, il y a aussi cette confiance excessive dans la performance, ce qu'on appelle la PMA, la fécondation in vitro. Non, la PMA, ce n'est pas une baguette magique. La fécondation in vitro, ce n'est pas une baguette magique. C'est vrai, à tort, me semble-t-il. On a occupé l'espace médiatique depuis 40 ou 50 ans. C'est pas grave, vous avez des soucis, il y a la fécondation in vitro. Sachez que plus de 45% de couples infertiles quittent le circuit de la PMA sans enfants. Je crois qu'il faut que les Français intègrent clairement ces messages.
Alors, quelles sont les solutions?
Pour moi, avant de répondre à votre question, c'est là d'où l'importance de ces rapports qui doit déboucher sur la mise en place d'une vraie stratégie nationale de prévention. Pour moi, en attendant une vraie stratégie de prévention contre les différentes causes de l'infertilité, il va falloir partager les 6 axes prioritaires que nous avons identifiés comme prioritaires. Le premier axe, c'est informer et éduquer à l'échelle collective, mais au travers de campagnes de communication, de manière claire, mais sans culpabiliser, sans moraliser et sans paraître pronataliste. Il faut même s'adresser aux ados, payer des influenceurs et des influenceuses, utiliser des moyens de réseaux sociaux tels que TikTok ou autres pour permettre de faire passer les messages. Après, libre à chacun. On propose, par exemple, à partir de l'âge de 29 ans, pourquoi 29 ? Parce que la loi aujourd'hui de 2021, la loi dite bioéthique, vous autorise de bénéficier d'une préservation de fertilité dite non médicale, sociétale. Eh bien, nous, on propose une consultation longue de 3 quarts d'heure. Comme ça, vous faites un check sur votre santé reproductive. Si vous le désiriez, rien d'obligatoire. Pour l'homme, pareil. Quatrième axe, on en a parlé un peu tout à l'heure à propos de prise en charge de l'homme infertile, mieux repérer, mieux diagnostiquer et détecter là où les causes de l'infertilité chez l'homme, chez la femme ou chez les deux. Cinquième axe, ce qui est pour moi fondamental, quand un ministre de la République vous dit « Mais professeur, pourquoi les résultats de PMA ne sont pas satisfaisants ?» J'ai répondu « Monsieur le ministre, pour améliorer quelque chose, il faut essayer de comprendre. Et pour comprendre, il faut faire la recherche. » Donc, je me réjouis aujourd'hui, le gouvernement a mis sur la table 30 millions d'euros dans le cadre de ce qu'on appelle « plan d'équipement prioritaire de recherche ». Ça, c'est le sixième et le dernier axe. Mettre en place une structure nationale autour de la fertilité et de la natalité pour s'occuper de cela du matin au soir sans faille.
L'autoconservation de ses ovules ou de son sperme est donc une des solutions.
J'aime bien le terme autoconservation parce que quand on emploie les mots excessifs, préservation de la fertilité, on préserve rien du tout. Je crois que le terme autoconservation me semble-t-il, en termes de sémantique, plus adéquat. Pour la préservation des fertilités dites non médicales à partir de l'âge de 29 ans pour l'homme comme pour la femme de 29 à 37, pour les hommes 29 à 45, elles sont prises en charge. La seule chose qui reste à charge des hommes et des femmes, c'est une contribution symbolique de l'ordre 40-50 euros par an pour la préservation de leurs gamètes. C'est tout. Mais il n'y a pas d'inégalité dans la prise en charge, absolument.
Vous souhaitez la création d'un Institut national de la fertilité, un peu sur le modèle de l'Institut national du cancer. Il servirait à donner une meilleure connaissance ou une meilleure prise en charge de l'infertilité sur l'ensemble du territoire. Mais en attendant que vos recommandations soient mises en place, que faire aujourd'hui ? À qui s'adresser si on ne parvient pas à avoir un enfant ?
Moi, j'ai dit simplement, quand vous désirez de mettre en route votre bébé, d'abord, ayez des rapports réguliers, 2-3 fois par semaine. Arrêtez tout moyen contraceptif. Des fois, les gens, ils ne savent pas. Vivez le plus normalement possible, vraiment sans stress. Et puis, n'imposez pas en disant « je veux être enceinte le mois de janvier ou février ou mars ».
Et si au bout d'un an, il n'y a toujours pas de grossesse ?
C'est eux, je les encourage à venir consulter un spécialiste. Les gynécos, les médecins de la reproduction, l'urologue, les andrologues. Parce que jadis, quand on a commencé, on disait « attendez 24 mois ». Mais c'est obsolète cela. Il faut vraiment le pondérer sur l'âge de la femme. On ne va pas dire à une femme de 40 ans « attendez 2 ans ».
Dans cette situation, il faut faire un bilan de fertilité plus tôt, au bout de 6 mois.
Absolument, en fonction de l'âge de la femme.
Ne faudrait-il pas également faciliter l'accès à la PMA ? Selon l'Agence de la biomédecine, le délai entre la prise de rendez-vous et la première tentative pour une PMA avec don de spermatozoïdes a augmenté. Il était de plus de 14 mois fin 2022 et de 23 mois pour un don d'ovocytes.
Maintenant, vous évoquez aussi le délai d'attente. Ça, je l'entends de partout. Eh bien, il suffit d'autoriser davantage de centres. Il y a un cahier de charge bien connu. Tous les centres qui remplissent toutes les cases et qui respectent les cahiers de charge, autorisez-les.
Il existe aujourd'hui une centaine de centres d'assistance médicale à la procréation. Vous soutenez qu'il en faut davantage.
Maintenant, si vous quittez Paris, région parisienne, par exemple, dans mon propre centre à Montpellier, la durée d'attente est de l'ordre de 3-4 mois. Mais le temps de faire un bilan. il faut explorer votre cycle, il faut explorer, si vous avez un pépin quelconque, explorer votre réserve ovarienne au travers d'une écho endovaginale avec les dosages hormonaux. Bref, qu'on sache quel traitement, quel protocole qu'on va donner à cette patiente de manière adéquate pour récupérer une dizaine d'ovocytes. C'est le temps médical, je pense, ni plus ni moins. Alors, c'est vrai, ici, sur Paris, région parisienne, d'attendre 18-24 mois, me semble-t-il, extrêmement excessif et exagéré. Deuxièmement, il va falloir repenser notre politique face aux dons de gamètes, qu'ils soient l'ovocyte ou qu'ils soient les spermes. Parce que, à l'origine, on pensait régler toute forme d'infertilité par le don de gamètes. Or, le don de gamètes, aujourd'hui, c'est un infime pourcentage par rapport au reste d'activité des PMA. Donc, moi, je pense qu'il va falloir aussi repenser cette stratégie de don intégralement. Je dirais, le don d'ovocytes pour une femme ou le don d'esperme pour un homme n'a rien à voir. Je pense qu'il va falloir leur repenser à nouveau, considérer leurs conditions, considérer l'attribution d'une indemnité compensatrice. C'est pas un salaire, c'est pas un contrat de travail. Parce que je crois qu'il faut arrêter de cacher la face. Il y a toutes les cliniques de fertilité en Espagne, en Grèce, en Belgique, elles viennent faire leur marché en France. Mais je suis désolé, une femme va subir, au-delà de son exploration, au-delà de l'enquête génétique, le conseil génétique, elle va avoir une stimulation ovarienne, elle va avoir une ponction, il y a du risque de la ponction, elle va avoir l'abcès de l'ovaire. Ce n'est pas comme un monsieur où il va faire son prélèvement par masturbation et on attend 6 mois en quarantaine le temps de refaire la sérologie avant d'attribuer ses gamètes. Donc moi, je pense qu'il va falloir vraiment, ça c'est un chantier, si on a une structure nationale vraiment qui s'occupe de cette question, de repenser intégralement la stratégie de recrutement des donneuses et des donneurs.
Vous citez l'exemple de l'Espagne où les donneuses sont rémunérées. En France, une femme en bonne santé peut donner ses ovocytes si elle est âgée de 18 à 37 ans inclus, qu'elle ait ou non des enfants. Les frais médicaux, de transport et d'hébergement sont pris en charge, mais elle ne perçoit aucune rémunération. Le don s'inscrit dans une démarche de solidarité. Êtes-vous favorable à ce qu'elle soit rémunérée ?
Pas du tout. Nous sommes dans un pays magnifique où la solidarité nationale nous prend en charge à tout bout de vue.
Merci, professeur Samir Amama, pour toutes ces réponses. J'espère que ce podcast vous aura permis de mieux comprendre les causes de l'infertilité et surtout de savoir quoi faire si vous y êtes confronté. Le message est clair. Si vous ne parvenez pas à être enceinte naturellement au bout d'un an ou 6 mois passé 35 ans, parlez-en à votre médecin traitant, consultez un spécialiste, un gynécologue pour les femmes ou un urologue pour les hommes. L'Institut national d'études démographiques révèle que le recours au traitement de l'infertilité est de plus en plus tardif. Or, plus la PMA intervient tardivement, moins bonnes sont les chances de succès. Hyperchondriaque est un podcast de Santé Magazine. Vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le, partagez-le, abonnez-vous, écrivez-nous sur nos pages Facebook et Instagram et à l'adresse redaction@santemagazine.fr. Nous vous donnons rendez-vous fin avril pour parler d'intelligence artificielle en médecine.